Il y a mille façons de parler de l'université, il me semble, et il y en a plein de mauvaises. Je ne dis pas que celle-ci, c'est la bonne, mais il y en a plein de mauvaises que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire justement l'aspect pamphlétaire, et hop, tout va mal, et une espèce de trait comme ça, déversé, on ne sait pas trop comment, qui repose sur pas grand-chose, si ce n'est une humeur. Ça existe et pourquoi pas. C'est pas ce qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, c'était pas non plus de répéter ce que voilà, c'est la faute à Pécresse ou c'est la faute à Sarkozy ou pire que ça, c'est la faute du vilain néolibéralisme et à force de le mettre partout, il explique plus rien du tout. Et en réalité, il y avait moi, le point de départ du bouquin, c'est à la fois une colère et à la fois une incompréhension. Et je pense que justement, les deux fils sont là. La colère, je l'attache à la situation des précaires. Je vais pas vous dire mon parcours et tout ça. Après tout, on s'en fout par rapport au bouquin, mais...
Peut-être juste préciser que t'es historien.
Voilà, historien. C'est pas mal. Non, bah oui. C'est un titre... voilà, je l'assume très bien, mais... oui, non, le point de départ était la colère au regard de ce qu'est devenu l'université pour moi, et en particulier la question des précaires, c'était mon point de départ. C'est-à-dire comprendre c'est quoi cette précarité au sein de l'université. Pour la désigner rapidement, parce que je me connais un peu maintenant, je sais que je fais plein de digressions, je ne vais pas avoir le temps d'en parler après, mais la précarité dans l'université, c'est pas juste une métaphore d'une situation qui serait pas bien en place ou je ne sais quoi. C'est la précarité qu'on connaît partout ailleurs. C'est-à-dire il y a des gens qui vivent très mal, il y a des gens qui bousillent leur vie à essayer de courir après des postes qu'ils n'obtiennent jamais, et puis qui passent par des périodes de chômage, et puis qui reviennent et qui s'accrochent pendant 10 ou 20 ans, la moyenne aujourd'hui, juste, je ne vais pas mettre des chiffres, mais puisqu'il est documenté, autant que je m'appuie sur la documentation, dans les sciences dures en particulier, parce qu'on n'y pense pas tout le temps, la moyenne aujourd'hui qui sépare un docteur fringant qui soutient, et le moment où il finit par obtenir un poste, c'est-à-dire tous ne l'obtiennent pas, mais celui-ci, en moyenne, on est aujourd'hui à 9 à 10 ans. C'est-à-dire, imaginez ce que ça peut vouloir dire, 9 à 10 ans dans une vie, pas simplement une vie de chercheur, mais déjà une vie de chercheur. Voilà. Donc cette précarité-là, et ce qu'on nous dit jamais, ce qu'on peut voir assez facilement quand on creuse un peu la question, c'est-à-dire ce que ça nous dit de l'université. Or, on a tendance à imaginer, je dis bien, c'est mon point de départ, le bouquin, c'est juste une partie, mais c'était le point de départ, on a tendance à imaginer ou à nous faire croire que la précarité viendrait d'un état de fait de l'université, parce qu'elle va pas bien, ou parce que c'est la crise, ou parce qu'il y a plus d'argent, et ainsi de suite. Et en réalité, quand on creuse un peu la question, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire, la précarité, c'est la condition de la modernisation de l'université. C'est-à-dire que c'est parce que, enfin, pour qu'on puisse mener à bien ces fameuses politiques de réforme qu'on a menées depuis 2000, encore autre digression, je ne parle pas que de la France, destruction de l'université française, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas l'OCDE qui décide en 1994, la Banque mondiale, bon. Mais pour ce qui est de la France, voilà, il y a j'ai perdu le fil, ça y est.
Est-ce que là, tu as pas ça?
Ouais.
La condition de la...
Oui, voilà, que c'est une condition, c'est-à-dire que les politiques de modernisation, par exemple, le mode de financement de la recherche, donc c'est détaillé dans le bouquin, mais le mode de financement de la recherche pour les non-initiés qui est devenu de la recherche par projet, c'est-à-dire que les chercheurs, pour ceux qui veulent être dans la compétition et récupérer de l'argent, doivent suivre les sujets de recherche qui sont posés comme des priorités sur lesquels il y a de l'argent posé. Pour que ça fonctionne, juste ça, mais de la même manière pour que ça fonctionne à l'université, c'est-à-dire pour qu'il y ait toujours plus d'étudiants, parce qu'on a de plus en plus d'étudiants, et de moins en moins de postes, c'est pareil, il y a eu une déperdition des postes, contrairement à ce qu'on y dit, il y a 26% de postes statutaires en moins entre 2009 et 2013, c'est pas rien. Donc pour que tout ça puisse continuer à fonctionner, la précarité est devenue une politique structurelle d'organisation de l'université. C'est-à-dire, c'est pensé, c'est préparé, c'est organisé à l'intérieur de l'université comme étant une des conditions pour que ça marche. Et pour que ça marche dans cette destruction dont je parle. Or, la plupart du temps, on ne le voit pas comme ça. Soit c'est une forme de commisération, et oh là là, les pauvres malheureux, soit c'est, nous aussi on est passé par là, ou je ne sais quoi. Moi, mon point de départ, c'était ça. D'abord, cette colère autour de cet état de fait, parce que quand même, ça, si on tire le fil, ça a des répercussions et sur l'enseignement, et sur la recherche, et sur ce que c'est qu'une université dans notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une université, si c'est ça? Alors, je ne sais pas s'il y a des parents ici, mais si vous dites qu'il y a une chance sur deux à peu près que l'enseignant qui est face à votre enfant soit un précaire, c'est-à-dire vous vous demandez à minima, mettons que ce soit un auto-entrepreneur, comme il y en a de plus en plus, qu'est-ce que ça vaut le diplôme public dispensé, sanctionné, validé, par ce genre de, d'universitaire. Qu'est-ce que
là,
ça veut dire?
Là, tu vas vite, parce que ouais, je vais vite. Dans le livre, tu repars d'un point de...
Oui, alors, là, ça, c'était mon point de départ sur le bouquin. La colère et l'incompréhension. C'est-à-dire, l'incompréhension, c'est comment, d'abord, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on en est là, et comment ça se fait que bah, c'est globalement dans une forme d'indifférence publique. Je veux dire, l'université en France, c'est pas rien, il suffit de penser à mai 68. On est là aujourd'hui dans une indifférence au regard de ce que peut être une question politique de ce que c'est que l'université, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle fait, de ce qui s'y passe. Alors, ça, c'était le point de départ du bouquin, de l'envie de faire le bouquin, de cette colère et cette incompréhension. Alors ensuite, j'ai fait mon travail d'historien, justement, parce que je voulais pas que ce soit un pamphlet, et je voulais que ce soit une... C'est difficile à qualifier, mais une pensée critique, disons. C'est-à-dire quelque chose qui soit adossé à un raisonnement, documenté et qui soit suffisamment critique pour proposer des choses, c'est-à-dire montrer où ça va pas et essayer de faire valoir une position qu'on prend entre nous ou qu'on... Je parle des universitaires qu'on peut arriver à prendre entre nous ou dont on se moque royalement, mais enfin, faire exister quelque chose. Et donc, bah, probablement, mais pas que, parce que je suis historien, j'ai commencé par me demander cette destruction qui est, là c'est pas une digression, qui est à la fois la destruction des études, des étudiants, de l'enseignement, de la recherche, de la gestion de ce que c'est qu'un établissement public, du recrutement des universitaires, toutes les formes de clientélisme qui introduisent la précarité dont je parlais, de la place même de l'université à l'intérieur de notre société, c'est-à-dire si elle sert juste à préparer des gamins à leur futur salariat ou à les adapter au monde professionnel qui les attend, bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc, se demander ça et le faire à partir de mon travail d'universitaire. Voilà le point de départ. Et il se trouve que le comprendre cette destruction, c'est comprendre, ça paraît banal, mais encore faut-il aller voir, ce qui a été détruit. C'est-à-dire, c'est quoi qui a été détruit? Qu'est-ce qu'il y avait et d'où ça pouvait venir cette chose qu'on a perdue, ou ces choses qu'on a perdues? Et il se trouve aussi que pour un historien, j'étais assez bien armé pour ça, ce qui s'est défait, pour moi, il y a deux grandes choses qui sont articulées et qui tiennent la démonstration autour du bouquin, c'est, voilà, je ne vous fais pas l'historique, mais mettons, vous me croirez sur parole, vers 1900 se constitue à peu de choses près l'université telle qu'on en parle et telle qu'elle a été pratiquée au XXe. C'est une banalité, mais telle qu'elle a la profession universitaire, la place des études et la place de l'université dans notre société se sont constituées à ce moment-là autour de deux choses concrètes qui sont d'une part une forme de conquête d'une indépendance du monde universitaire à l'égard de tous les pouvoirs extérieurs à lui, c'est-à-dire conquête de l'indépendance par rapport à la mainmise, mettons, juste la mainmise des pouvoirs politiques en place sur le contrôle des recrutements, le contrôle des cours et le contrôle, je sais pas, la taille de la barbe et la taille de la moustache du professeur qui doit en imposer. Voilà le type de dépendance qui tenait l'université au fil du 19e siècle et la conquête vers 1900, c'est-à-dire ça commence en 1870 et ça se fait progressivement, la conquête, c'est pas un hasard au moment de la construction de l'État-nation, la conquête c'est donner, construire un univers et lui donner une autonomie par rapport à ses dépendances préalables et dire en fait, il va fonctionner. Je caricature, mais il va fonctionner de lui-même, pour lui-même, à partir de critères dont il se dote, c'est-à-dire le recrutement des universitaires doit passer par le contrôle des pairs, on n'a pas besoin de soumettre ses cours à l'autorité politique et de les faire valider, on ne se fait pas virer si on n'a pas respecté tel ou tel. Donc cette forme d'indépendance-là, je ne suis pas en train d'idéaliser, je vous parle d'une construction, d'une des ficelles de l'université. Et l'autre ficelle qui va avec, et je pense qu'on l'oublie tout le temps, c'est qu'en même temps que cette autonomie se met en place, comme il y a eu d'autres formes d'autonomisation au XIXe siècle, d'autres domaines d'activité, là le domaine universitaire s'autonomise, et en même temps, précisément parce qu'il s'autonomise, se met en place une unification interne du métier. Parce que l'autre grande chose qui n'existe pas avant 1870-1880, c'est l'idée que tous les universitaires, du plus petit au plus grand, appartiennent à un même tableau d'ensemble, à un même monde, qui est... alors évidemment, il y a des hiérarchies, ils n'ont pas les mêmes responsabilités, le même salaire, mais ils appartiennent à une même... c'est pas le mot famille, mais un même tableau d'ensemble. C'est là que la figure la plus simple, c'est l'apparition des organigrammes universitaires. C'est-à-dire le plus petit et le plus grand font partie du même tableau d'ensemble. Et ce qui les sépare, au préalable, c'était deux mondes radicalement différents. Il y avait les titulaires qui étaient fonctionnaires, titulaires de chaire qui étaient fonctionnaires et qui eux seuls détenaient le pouvoir, la possibilité de publier des livres, de faire des conférences où venaient du monde. Et les autres étaient les suppléants, les adjoints, les remplaçants, tout ce que vous voulez, qui étaient souvent recrutés que pour 10 ans. De manière assez arbitraire, puisque c'était les statutaires qui les recommandaient, et ainsi de suite, mais ne devenaient jamais titulaires. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes différents, avec des rapports différents. Les universitaires statutaires sont des notables, pour beaucoup, ils finissent dans les cabinets ministériels, ou ministres, ou autres. Voilà, entre 1870 et 1914, la compartimentation de cet univers-là, entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, qui restent en dehors de toute façon tout le temps, s'abolit au profit de cette forme d'unification. Ce que j'ai appelé dans le bouquin le principe de continuité, c'est-à-dire la continuité, le même fil, en fait, et les entrants et les sortants, d'ailleurs qu'on n'appelle plus les adjoints et les titulaires, les entrants et les sortants, font partie de la construction de cette carrière professionnelle. Et ils sont séparés par du temps, en réalité. Alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais voilà le modèle tel qu'il se met en place. Et ce qui a été détruit dans les années 2000, alors là c'est pareil, c'est difficile à dater précisément, mais c'est pas le problème. Ce qui a été détruit dans les années 2000, c'est ça, ces deux ficelles-là. L'idée que l'université était un univers autonome et indépendant, qui s'approprie ses propres règles, qui fait fonctionner le monde du savoir, non pas comme il l'entend, il y a des règles extérieures et autres, mais il fonctionne sur un mode autonome. Et l'idée que le métier est organisé avec un fil de continuité entre les petits et les grands. Voilà ce qui s'est détruit pour moi, et les deux ensemble. Et les précaires sont là, c'est-à-dire les précaires sont dans le... eux sont, pour beaucoup, par dizaines de milliers aujourd'hui, dans la situation d'être des précaires de profession. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on est revenu à ce qui existait au début du 19e, je vous dis juste, voilà ce qui s'est défait, et pour beaucoup de précaires, pour la majorité des précaires, qui restent précaires tout le temps, ils sont revenus dans ce modèle de d'en dehors, c'est-à-dire de monde d'en dehors. On est des presque universitaires, on est à côté, on est destiné à... C'est-à-dire, c'est ça le jeu. C'est-à-dire, on s'attache toujours à l'idée qu'on va finir par y arriver. Ce que je vous disais tout à l'heure, 9, 10 ans, 12 ans, 15 ans, toute une vie. Et on remet toujours 100 balles en se disant, bah oui, mais si j'accepte ce cours à l'autre bout du pays, ça y est, je vais y rentrer. Mais en réalité, ce sont deux mondes différents entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Et la clé pour moi, et c'est pour ça que les deux fils sont importants, la clé de ça, c'est le moment où l'université, sous couvert de ce qu'on a appelé chez nous la réforme Pécresse ou la loi LRU, c'est-à-dire l'imposition de l'autonomie des universités, sous couvert de cette autonomie, ce qui a disparu précisément, c'est l'autonomie des universités et des universitaires eux-mêmes. Voilà, donc les deux fils historiques qui sont là-dedans tiennent ça. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est essayer d'expliquer d'abord ce qui concerne ce que j'ai appelé la liquidation totale, c'est-à-dire ce qui concerne d'où ça vient ces politiques de de destruction de l'indépendance universitaire. Donc l'OCDE, donc la Banque mondiale, qui, à la fin des années 90, mettent en place deux choses. À la fois la reconceptualisation économique de ce qu'a à être l'université, c'est-à-dire l'idée que, c'est assez simple, hein, s'il y a crise économique, c'est que l'université ne tient pas son rôle. C'est-à-dire, je m'explique, enfin c'est expliqué en toutes lettres dans les rapports, s'il y a du chômage, c'est que les étudiants sont mal formés. S'il n'y a pas... choses auxquelles on s'est habitué, mais qui ont eu une origine avec une conceptualisation à l'OCDE, puis à la Banque mondiale, quand même. C'est pas innocent. Si la croissance économique n'est pas au rendez-vous, c'est parce que les universitaires ne sont pas capables de créer, à partir de leur recherche, de l'innovation qui va servir aux entreprises. Et il m'en manque une troisième. Enfin, en gros, vous avez compris l'idée, c'est que l'université est au centre d'un monde qui n'appartient pas à celui des savoirs ou de la production de la connaissance ou de la production d'un esprit critique, mais qui appartient à partir de ce moment-là, d'où la reconceptualisation, qui appartient à un monde économique, qui appartient déjà à un monde économique dans lequel elle est au service de quelque chose qui n'est plus elle-même. C'est là où je parle de cette perte d'indépendance.
L'histoire de l'adaptation de...
C'est difficile parce que les rapports dont je parle là, le premier date de 94, qui s'appelle l'université fondée sur l'économie, il me semble, de l'OCDE, celui de la Banque mondiale de 98, ça doit être le financement et la gestion des universités pour le 21e siècle.
Donc la période où cette construction-là, à partir de 1900, où elle s'est établie, avec ses...
qu'est-ce qu'il y a entre les deux, en fait ?
La période où on pourrait dire que l'université, en tant qu'université, elle a existé, non pas à tout ou un âge d'or, hein, mais justement où...
Sur ce mode-là, en tout cas, elle a existé. C'est une question, ça m'emmène très loin, mais en fait, au XXe siècle, ce qui est très intéressant, c'est l'objection habituelle, moi l'objection que je mettais en préalable, oui, mais enfin, il y avait déjà des précaires, on ne les appelait pas comme ça, mais les assistants, qu'est-ce que vous faites des assistants ? Ou même, mais dans les années 30, où on rêve déjà d'Amérique, où on se dit, tiens, Harvard, ils font des trucs vachement... Il y a déjà eu des choses. Oui, mais ça touche, ça... distant les deux ficelles dont je parlais tout à l'heure, mais ça les abolit absolument pas. Les assistants et les autres, les maîtres assistants, avec une hiérarchie entre les deux, ont un statut. C'est-à-dire, ils appartiennent à l'université, ils ont un statut. La plupart du temps, pour les assistants en sciences, par exemple, ils sont fonctionnaires d'office. Ça n'a strictement rien à voir avec des précaires qui vont être là à courir 3 mois. Donc, en réalité, évidemment, moi, je ne parle pas du tout d'âge d'or parce qu'il y a plein de luttes de pouvoir. On ne peut pas rêver de ça, mais en tout cas, le modèle indépendance et unification interne du métier tient jusque officiellement, c'est-à-dire dans le mode de fonctionnement, il tient, pour nous, Français, jusqu'au moment où, Bologne 2000 et Lisbonne 2001, ou si on est...
En
fait, pour nous, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire que ce dont je parlais, l'OCDE, la Banque mondiale, c'est ce qui va essaimer à travers la planète. Mmh. La deuxième partie dont je parlais, dont j'ai pas parlé, il y a reconceptualisation, mais il y avait plus pervers qui était dérégulation. C'est-à-dire, si l'université, sur le mode dont je vous ai dit, s'il y a du chômage, c'est que s'il y a il y a évidemment, parce que là, c'est le rôle de la Banque mondiale, enfin, le rôle qu'elle sait arroger. Il y a des solutions. Il faut quoi ? Privatisation des financements, rapprochement avec les entreprises. Mais ça, c'est 98. Nous, en France, on est tributaire de la façon dont l'Union européenne a traduit ça dans les grands barnums qui ont été la conférence de Bologne 2000, voilà. Oui, c'est 2000, oui. Et Lisbonne en 2001, qui ont été des grands moments de retraduction de cette nouvelle conception universitaire à destination des universités et des pays membres de l'Union européenne.
Justement, pour préciser ce que toi tu as, le mouvement que tu as fait de dire ce qui a été détruit, pour repréciser ça, tu parlais de... Et donc pendant ce temps-là, avant les années 90-2000,
2000, le temps que ça se
met. Il y avait, donc l'université, c'était ce rapport à la durée qui était ce que tu appelles le temps à part dans l'existence, où il y a la séparation dans sa vie par rapport... le temps du savoir, ouais. De l'apprentissage loin des autres enjeux. Le fait qu'il y ait un exercice d'un pouvoir collégial qui permettait une discussion sur les contenus. Et puis, cette production des savoirs que tu distingues franchement de l'innovation, justement, qui sera proposée après.
En réalité,
il me semble que c'est les trois endroits qui, pour toi, font l'université.
Voilà. En réalité, c'est les trois points sur lesquels s'est appuyée la destruction dont je parle et ce qui a été pour nous les lois prises dans les années 2000. C'est-à-dire, la première dont tu parles, c'est les études. C'est-à-dire, que signifie le fait de faire des études à l'université ? C'est-à-dire, si on ne pose pas la question comme ça, on ne la posera jamais. Mais ça veut dire quoi ? Alors, la deuxième, j'ai oublié. Et la troisième, c'est les recherches. Le pouvoir collégial, c'est l'organisation interne du métier. C'est-à-dire, comment ça se passe pour recruter quelqu'un ? Comment ça se passe ? Voilà. Donc, en réalité, il y a les études, l'organisation interne et ce qui peut relever de la recherche. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais quand je parle du monde universitaire, d'abord, j'ai fait l'effort de parler des différentes disciplines, c'est-à-dire de ne pas rester cantonné à ce que moi je connais, d'aller regarder les centres de recherche et rien, à une perspective. La circulation des influences, mais il y a aussi l'idée d'aller regarder comment ça fonctionne concrètement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi faire des études aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et en réalité, dans cette forme de liquidation, chacun des points là dont tu parles ont été soumis à des transformations radicales qui sont, par exemple, si on veut mettre une date, si on veut mettre une date ou un mouvement pour ce qui est des études, moi, il me semble que le plus radical, même si ça n'a pas du tout été perçu comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que ça se constitue maintenant qu'on voit les choses, la réforme LMD, par exemple, qui consiste à dire, Alors pour l'aspect technique, en fait, ça a l'air de rien. On dit juste, on va harmoniser à l'échelle européenne les LMD, licence, master et doctorat. En fait, l'idée, c'est de dire, on va mettre les mêmes diplômes à travers toute l'Europe pour qu'il y ait des circulations, pour qu'on comprenne enfin. En fait, la visée, c'est la simplification. C'est toujours la même clé. Bougez pas, on va juste simplifier, on touche à rien. Et en réalité, dans le LMD, qui était... là aussi l'histoire sert à ça, qui est en réalité la réadaptation de ce qui avait été fait à Harvard à la fin du 19e siècle, qui était l'idée de dire deux points. Alors le président d'Harvard, c'est quelque chose, si un jour vous avez le temps d'aller lire ses biographies, enfin de l'époque, hein, je parle, très libéral, très durable aussi, parce qu'il reste 25 ou 30 ans, je ne sais plus. Et donc l'idée, c'est de dire, alors, il faut que les études soient adaptées au public de la classe cultivée américaine, et donc il faut arrêter avec les humanités, la littérature, les machins, il faut que ce soit des enseignements techniques. Avant, les universités américaines avaient pris modèle sur les universités européennes. D'ailleurs, elles s'en réjouissaient. On a un truc très à l'allemande ou très à la française, la littérature, la philosophie. Là, ce que lui dit, c'est on va libéraliser tout ça. La clé, c'est pour que ce soit en phase avec les besoins, futurs besoins professionnels des étudiants, et d'autre part, pour que ça les responsabilise. L'idée, de toute façon, du libéralisme de l'époque, c'est ça. Il faut que ce soit utile et il faut que ce soit une forme de responsabilité de l'individu, l'individu qui choisit librement. Maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études longtemps pour savoir que le libre choix n'existe qu'à partir du moment où il adhère à une forme d'habitude, là, en l'occurrence, choisir librement ses études, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable, et c'est ce qu'on a eu, nous, en France, être capable d'anticiper le fait que les études vont servir à une insertion professionnelle, et non plus à une forme de gratuité de ce que tu citais, c'est-à-dire les études comme temps libre. Faudrait pas le dire comme ça, évidemment, tous les parents vont... Mais... comme temps libéré des enjeux sociaux, libéré des enjeux familiaux et temps d'apprentissage, de socialisation, de connaissance pour la connaissance et ce genre de choses-là. Et ce que les réformes de la LMD, mais pas que, ont mis par terre, c'est... Enfin, ce qu'elles ont commencé à mettre par terre et ce qui a été mis par terre ensuite, c'est ça, l'idée d'une définition des études universitaires comme temps destiné au savoir pour le savoir... Bon, moi, je tire le fil plus loin que ça dans le bouquin, mais c'est un des points sur lequel ça s'appuie. Et il me semble que... D'ailleurs, ce n'est pas un point qui est mauvais, parce que quand on y réfléchit, toute la professionnalisation... Moi, je suis tombé dans... Évidemment, on travaille toujours soit dans une fac, soit dans 10 facs, mais on est toujours dans des univers assez similaires. Enfin, moi, j'ai pas enseigné la biologie moléculaire dans ma vie, je ne sais pas. Bon, mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que cette forme de professionnalisation, c'est, encore une fois, c'est pas juste on change les mots ou on simplifie, c'est que tout est lié. Alors, la professionnalisation des études, ça veut dire la multiplication des licences et des masters professionnels, ça veut dire le rapprochement, pas simplement le rapprochement au sens physique, mais le rapprochement du monde de l'université, rapprocher l'université du monde des entreprises. Ça veut dire, comme le font à partir de aujourd'hui un certain nombre d'universités, c'est-à-dire qu'on fait en sorte... de soit demander à des RH de boîtes privées d'expliquer quels sont, par exemple, dans la formation idéale de tel type de salarié de demain, le type de compétences, et ensuite on fait des fiches compétences qui correspondent au diplôme, enfin qui correspondent à la formation qui mène au diplôme.
Et ça, c'est ce que tu appelles là aussi l'exercice d'un pouvoir collégial. C'est-à-dire que maintenant, les cours sont... formé en fonction justement de ce qu'on a décrété étant.
Alors ça oui, alors mais le lien, oui, c'est autre chose, mais en réalité, voilà, il faut, mais c'est très bien de les télescoper, parce que on n'a pas l'habitude de les télescoper. Nous, on dit il y a les études, il y a les machins. Mais là, juste pour finir, je vous renvoie dans le bouquin sur cette professionnalisation. Moi, j'aime beaucoup le dialogue organisé, évidemment, par un journal très très porté sur les Échos. Porté sur le monde de l'éducation, comme on sait, qui avait organisé en 2013, fin 2013, une interview croisée entre Fioraso et Gattaz, en réalité, bon, entre le gouvernement, enfin, la ministre en charge de l'éducation supérieure et de la recherche, et le patron des patrons. Et autour de la notion de copilotage, parce qu'évidemment, pour le MEDEF et la CGPME, il n'y a jamais assez de copilotage. C'est-à-dire, il n'y a jamais assez. Nous tous universitaires, on est tous dans un monde complètement fermé. On n'est pas au courant des réalités du monde, et eux sont là pour nous les apprendre. Et donc, on est là pour ouvrir. Et l'interview est assez fabuleuse là-dessus, où il nous dit finalement, l'université, il faut vraiment s'ouvrir. Pas parler aux quatre Pékins qui vont eux-mêmes finir universitaires, évidemment. Et il faut y aller. Il faut que ça devance les besoins, parce qu'on a besoin de chaudronniers, parce qu'on a besoin de.
Et où...
Non, 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 suspense. Mais non, mais je la trouve exemplaire de... finalement, on a l'apothéose de cette idée de professionnalisation de l'université. C'est-à-dire, ce qu'elle a à être, c'est l'antichambre du monde professionnel. Ce que les étudiants ont à venir chercher, c'est l'idée que leur parcours, ce qui est vachement intéressant, c'est-à-dire, on parle plus de moyenne ou je sais pas quoi, on parle d'ECTS. Les ECTS, qu'un étudiant vient chercher, qui lui donne son diplôme, ça s'appelle... alors, mon anglais, European Credit Transfer System, dans l'ordre. Hein. En fait, c'est des crédits. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'obtention, la moyenne qui permet d'obtenir le diplôme, on est dans la capitalisation des crédits, un peu comme une carte d'abonnement dans un supermarché. Et à la fin, quand vous avez suffisamment de crédits, vous avez le diplôme, en fonction des bricolages des différentes disciplines. Je caricature pour les initiés, mais ce qui est super intéressant pour nous, c'est-à-dire on a cette forme de professionnalisation. Les études sont conçues comme une espèce d'avaloir sur le futur monde professionnel de l'étudiant. C'est-à-dire, si on y réfléchit deux secondes, c'est-à-dire ils sont déjà dans l'option, et vraiment il faut juste avoir enseigné 10 minutes, les 10 premières minutes de l'année où les étudiants sont perdus, où on leur a dit qu'il faut avoir un projet professionnel, et ceux qui n'en ont pas sont paniqués, ils ne savent pas quoi répondre. Voilà, l'idée du projet professionnel qui commande ça. Et il me semble qu'il y a, il y a un fil vraiment extrêmement fort autour de ça. Et j'avais une autre idée que j'ai perdue, mais enfin... Et pour en venir donc au télescopage, le mode de fonctionnement en fait de l'université, là ça pose la question de ce qu'on appelle, ce qui a fini par s'appeler un peu comme le LND, hein, la gouvernance des universités, c'est-à-dire qui décide de quoi à l'intérieur de l'université et qui détient le pouvoir. Et sur le mode ancien, on était plutôt dans un registre de collégialité, donc c'est-à-dire qu'en gros, ce que je disais tout à l'heure, l'élection du nouveau collègue se passe entre pairs qui ont été préalablement sélectionnés pour ça, le choix, enfin l'orientation des je sais pas, du diplôme ou des choses qui sont enseignées, ou même des futures orientations de recherche, parce qu'il ne faut pas oublier de lier la recherche avec ça, procéder au préalable de cette forme d'indépendance du métier. Parce qu'on considérait, et les textes notamment des Républicains de 1900 sont assez forts là-dessus, parce qu'on considérait qu'il n'y a pas mieux avisé qu'un universitaire pour traiter des choses universitaires. Bon, à tort ou à raison, mais il se trouve que ça fonctionnait comme ça. Désormais, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, y compris dans ce qu'on a appelé, alors c'est encore une fois, c'est des sigles, c'est pas anodin non plus, mais la loi LRU de 2007. Alors c'est très intéressant aussi. J'ai pas le temps, mais la loi LRU, elle était prête en 2003, elle a pas été votée en 2003. Allègre avait déjà pensé à des choses comme ça bien avant. Enfin, en gros, on l'a en 2007, mais elle est déjà européenne et elle appartient pas à un gouvernement particulier. C'est-à-dire. Oui, c'est, je sais plus, il y avait un référendum, c'est pareil, je suis tombé là-dessus, un référendum du gouvernement sur, selon vous, des ministres, selon vous, quelle est la meilleure réforme du quinquennat Sarkozy, où tout le monde avait plébiscité la loi LRU, enfin, la loi LRU qui veut dire, et je le retrouve pas, enfin, c'est sur... Exactement, voilà, loi sur la responsabilité des universités. Oui, bien sûr, oui.
Tout à l'heure, vous avez dit, quand vous parliez de l'autonomie, quand la loi est arrivée, qu'elle était imposée. Et en fait... Oui, si, que ça ne s'est pas fait comme ça. Mais moi, je me souviens d'époque, quand c'est arrivé, ou alors je me trompe, hein, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde avait l'air de plébisciter ça, que ce soit de gauche ou de droite, et c'est venu d'où ça,
mais,
et parce que les universitaires, ils ont vachement marché dans la combine.
Oui,
et c'est mais quoi ça?
Alors, il y a plein de questions dans la question, en fait. Ils ont marché... Déjà, du point de vue de la loi, elle est votée pratiquement à l'unanimité des partis d'Assemblée. C'est-à-dire que les écolos qui votent pas, donc effectivement, elle est partagée. Et ensuite, là, c'est pareil. Moi, j'ai des souvenirs très précis du moment où ça se met en place, où on voit des universitaires qui sont ravis de voir arriver les États-Unis. En France, on va faire comme les États-Unis, on va pouvoir recruter qui on veut, payer comme on veut. Oui, il y a eu un... Alors, c'est pareil, il y a des gens qui se sont opposés, il y a eu des oppositions, mais globalement flemme. Il y a un rapport d'ailleurs d'une commission sénatoriale en 2013 qui revient, 2013 c'est la fin de l'application de la LRU, enfin le moment où ça y est, tout le monde y est, qui dit en gros, malgré le choc malgré le choc culturel que ça aurait dû représenter, il y a eu zéro contradiction, zéro opposition, voilà, dans l'université. Ce qui était à la fois pas vrai d'un point de vue factuel, mais très vrai du point de vue de la façon dont ça s'est opéré. C'est-à-dire que, un peu comme le LMD, certains ont vu ça très bien. C'est toujours pareil, il faut faire une sociologie précise de la façon dont ça s'est passé. D'où ça vient, en réalité, la loi sur l'autonomie des universités vient de ce dont je parle dans le bouquin, c'est-à-dire si on cherche les origines, on tombe sur l'OCDE et la Banque mondiale, c'est-à-dire l'idée que l'université doit de toute façon disparaître en tant qu'université parce qu'elle a à être un maillon dans la chaîne économique mondiale de formation des futurs de la future main-d'œuvre qualifiée et ainsi de suite. Et la partie autonomie des universités qu'on n'a pas inventée, en Angleterre ils ont fait un mode de fonctionnement exactement pareil, je parlais des diplômes, il faudrait ce que je fais dans le bouquin, comparé avec les diplômes espagnols. En fait, c'est européen, avec la perversité supplémentaire, moi qui m'avais marqué, parce que j'enseignais en Allemagne à ce moment-là, que pour les Allemands, on réformait à la française, que pour les Français, on réformait à l'allemande, que machin, enfin, en gros, plus personne sait. Et alors, je botte pas en touche, mais pour moi, c'est ça. La Banque mondiale et l'OCDE et les traductions. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, c'est l'opacité et l'inintelligibilité qui s'organise autour de ça. C'est-à-dire que personne sait d'où ça vient, personne n'est capable de nous expliquer, parce que la réaction, je sais pas, de base, devrait être de se demander qui fait ça, d'où ça vient. Les rapports existent. À ma connaissance, ils n'ont pas circulé, ils n'ont pas été lus, utilisés. Moi, j'ai pas retrouvé de débat faisant état du rapport de l'OCDE de 96 ou autre, qui prévoit ce genre de choses-là, qui dit, dans un flot de textes, je l'ai retenu parce qu'elle m'a marqué, si les universités ne s'adaptent pas, on se passera d'elles. C'est-à-dire que le monde universitaire, de toute façon, soit il est inféodé à ce mode de fonctionnement-là, soit il disparaît. Et donc, pour ce qui est de l'autonomie des universités, ça procède de ce mouvement-là, mais qui n'est pas isolé. C'est-à-dire, l'autonomie, elle a fonctionné, elle avait pour idée de, à la fois, rapprocher le monde de l'entreprise et le monde des universités, c'est-à-dire faire rentrer, mais ça va avec tout ce que je vous ai dit, faire rentrer des personnalités de la société civile et des gens de la vraie vie, du monde réel, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui soit sont des, et c'est le cas, hein, qui sont des grands patrons d'une boîte locale ou des cadres d'une grande entreprise ou d'un groupe financier. Aujourd'hui, on a une centaine, comme ça, on arrive à une centaine de groupes financiers qui se retrouvent dans les conseils d'administration des universités. C'était aussi la LRU donnée. Alors, j'y vais avec beaucoup de précautions, je me rappelle pas des termes exacts, mais plus de pouvoir à un président qui est conçu non plus comme président à l'ancienne, mais comme manager de l'université. C'est pour ça qu'on augmente son salaire, pas dans les proportions anglaises, en Angleterre. Le salaire a été multiplié par 3 ou 4. Les présidents de l'université étaient à 250 000 livres par an. Là, chez nous, on a fait plus modestement. Ils sont entre 70 et 150 000 euros par an, ce qui n'est pas rien par rapport à un universitaire. Mais c'était de lui donner plus de pouvoir, c'est-à-dire il a un droit de veto sur, je parle théoriquement, après dans la pratique, les présidents d'université, c'est pareil, il faut regarder, mais il y a des choses extrêmement intéressantes à tirer. Donc il a, sur le papier, un droit de décider de la politique universitaire, en conseil d'administration dont je viens de vous dire qu'il a été rétréci, mais ouvert à des non-universitaires, beaucoup de non-universitaires, et il a été, donc, pouvoir de recruter sur les statuts qu'il veut. Alors, je caricature, évidemment, on n'imagine pas le président de dire « alors celui-là, on le prend sur quel statut ?» Mais sur le papier, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, l'autonomie fonctionne sur l'université responsable, non pas simplement de sa politique universitaire, mais de qui elle recrute, donc la masse salariale, avec transfert de l'État qui se fait plus ou moins vite, qui se fait plus ou moins complètement et qui donne des situations ubuesques. Et j'en oublie un, autonomie dans la gestion. Enfin, il y a autre chose, il y en a trois. Mais enfin, le personnel, la politique universitaire et l'autre.
Les bâtiments.
Ouais, sur le budget. Oui, les bâtiments, c'est venu après, mais les bâtiments, ben, ça rentre dans le budget. Et donc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir, par exemple, la sociologie de ce que c'est qu'un président d'université. Les présidents d'université, il y a plein de contre-exemples, on en cite toujours, eh ben oui, très bien, ils sont gentils, très bien. Mais sociologiquement, ce que sont devenus les présidents d'université, c'est l'incarnation de cette vision managériale, c'est-à-dire, ils sont plutôt âgés, plutôt des hommes, plutôt sortis des sciences de gestion ou des sciences économiques en priorité, plutôt ayant exercé des fonctions de... Oui, oui, mais bon, plutôt ayant exercé des fonctions déjà de direction, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas directement du monde de l'enseignement et de la recherche, hein, et ainsi de suite. On est assez proche de ce qui s'est passé à l'étranger, on est assez proche de l'Italie, on est assez proche de bon, l'Angleterre, encore une fois, il y a la différence des statuts. Si, je dirais, alors je m'éloigne du propos peut-être, mais je dirais que la grande différence de la France est encore, moi je découvrais ça avec beaucoup de terreur et beaucoup de colère encore une fois, la grande différence a été que l'idée d'autonomie des universités, c'est-à-dire penser simplement aux palmarès mondiaux qui existent depuis les années 90, les Américains ont inventé des palmarès très tôt, prétendument mondiaux, bon, avant Shanghai il y en a eu d'autres, l'idée c'était de constituer un marché, c'est très construit, c'est peut-être pas le mot. Enfin, l'idée, c'est donc de construire un marché mondial des choses universitaires, au sens large, c'est-à-dire pour pouvoir drainer les étudiants dans les meilleures universités, soi-disant les meilleures universités, mais aussi uniformiser les critères de ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise université, c'est-à-dire à l'intérieur, la renommée des professeurs, le nombre de prix qu'ils ont eu, le nombre d'anciens étudiants qui sont dans les conseils d'administration des plus grosses firmes ou des plus grands groupes financiers, ou des critères extrêmement intéressants pour nous. Mais ce qu'ils ont fait de plus, c'est l'ouverture. Alors, le système américain, il faut le détailler, j'ai pas le temps, mais l'ouverture d'un marché universitaire au sens propre du terme, c'est-à-dire la possibilité pour des groupes privés, je vais le dire comme ça, de monter une université privée. Je garde le suspense pour la fin pour savoir c'est quoi le rapport avec le public. Donc des universités privées, c'est ce qui s'est passé avec Goldman Sachs, par exemple, qui, après les subprimes, trouve rien de mieux que de dire « Attendez, on a trouvé le truc suivant. Bougez pas. » Donc soit racheter une université, soit en créer une de toutes pièces, qui est, si possible, virtuelle. C'est-à-dire virtuelle. Les étudiants payent, bien entendu, mais les cours sont virtuels. C'est-à-dire ce qu'on essaie de nous vendre, là, sans arrêt, les MOOC, les machins. Donc les cours sont virtuels. Par exemple, l'université de Phoenix, en 2010, a 600 000 inscrits. C'est-à-dire, c'est hallucinant. 4 milliards de chiffre d'affaires pour un an, oui, 2011. L'essentiel de ce chiffre d'affaires, c'est là où le Sénat et la justice américaine ont dit « Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» C'est les bourses et les prêts étudiants. C'est-à-dire, c'est une catastrophe. Ils se rendent compte qu'une bonne partie de l'argent public destiné à l'éducation du pays part dans les poches des groupes privés qui montent des universités pour récupérer l'argent. Et qui file des diplômes, peu importe, mais personne ne vient vérifier ce que vaut le diplôme de l'université de Phoenix. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie, enfin bon. Mais, et les Anglais, mais là, pas plus tard qu'il y a un an et demi, deux ans, alors nous, c'est bon, on est... Et la Chambre des communes fait une enquête sur la BPP University, notamment à Londres, qui commence à prendre la même ampleur, qui appartient à un groupe de management... Non, à une holding, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui découvre que c'est pareil. C'est-à-dire le développement des ce qu'ils appellent les for-profit universities, et l'accomplissement de cette libéralisation du marché universitaire, c'est-à-dire l'autonomie des universités d'un côté, et l'idée que, alors, si elles sont autonomes et qu'elles ont à se rapprocher du privé, pourquoi une université privée ne ferait pas la même chose, avec de l'argent public? Alors en France, alors ça fait toujours crier, est-ce qu'on a eu ça? La première réponse, c'est non, parce que mauvais exemple qu'on donne tout le temps, l'université Fernando Pessoa qui a failli construire, enfin à Béziers, et, je ne sais plus si c'était à Béziers, à Montpellier, enfin bon, plutôt dans les c'est pas médecine, c'est le paramédical, c'est vous voyez, pas l'ostéopathie, ça me revient pas, mais enfin... Il y avait aussi les métiers de la petite enfance qui avaient été confiés à Cyrulnik et tout ça, qui était une université privée portugaise qui voulait s'installer en France, et on a dit non, pas de ça, nous, université privée, on n'aura pas de contrôle sur les diplômes, en plus c'est une sélection par l'argent, les étudiants ont beaucoup manifesté, elle a été fermée en 2014. Mais si on regarde mieux, que fait Sciences Po si c'est pas ça?
C'est-à-dire... Sciences Po, c'est un établissement...
Privé, c'est un établissement privé qui est à la pointe, qui d'ailleurs, il y a des... qui d'ailleurs a capté le moment réforme, modernisation de l'université, et qui est devenu en France l'étendard auquel, d'abord, d'ailleurs, on a construit tous les modes d'évaluation des laboratoires, sur lequel on a... Et Sciences Po, avec son patron Descoings, a été construit comme ça, c'est-à-dire sur le mode de la BPP université, pas du tout d'Harvard comme on nous hein, mais de la BPP université, c'est ce qu'il dit lui-même. Le truc, il est assez simple, il est... Alors d'abord, on met un conseil d'administration avec Pébro, l'ancien directeur de BNP Paribas. Ensuite, on fait venir plein d'étudiants étrangers, qui sont à peu près un tiers de... un tiers du corpus, j'allais dire, mais du nombre d'étudiants. On personnalise les revenus, les salaires des enseignants. Alors ça veut dire quoi, on personnalise ? C'est extrêmement intéressant parce qu'on personnalise, sans faire des jeux de personnes. Lui, il s'est personnalisé son salaire, il l'a personnalisé pour les grands profs, mais à côté de ça, l'essentiel de ce que sont... Je ne sais pas si on a l'habitude de le dire ou de le mettre en avant, en tout cas médiatiquement parlant, ça ne se fait pas, mais que sont les maîtres de conférences qui font l'essentiel du boulot à Sciences Po ? Eux, ils n'ont pas une rémunération personnalisée. Un maître de conférence à Sciences Po, c'est ni plus ni moins qu'un vacataire qui, par un bienfait de l'État qui date d'il y a 15 ans, a le droit de s'appeler maître de conférence, mais n'étant absolument pas maître de conférence, et n'étant pas recruté, cerise sur le gâteau, par des universitaires sur des critères universitaires. C'est-à-dire que c'est un jeu. Bon, mais sinon, tout le reste fonctionne sur le mode du... le rapport de la Banque mondiale appliqué à la France. Ce qu'il dit lui-même, c'est-à-dire en pouvant jouer sur une ambiguïté qui est la captation de ce qu'est l'enseignement en France. C'est-à-dire en pouvant jouer sur le fait que... Mais c'est comme si c'était du public. Ça, je me rappelle de...
Cet exemple-là de Sciences Po, il est vraiment incroyable et très développé. Parce qu'à la fois, tu touches à ce qu'il en est en effet du financement et que Sciences Po, et j'ai eu l'occasion d'en parler en donnant l'exemple de Sciences Po, on m'a soutenu que c'était une université publique. Et donc, j'ai pu dire non. Là, j'étais contente, il y avait livre, non, pas du tout. Mais donc, dans l'université, normalement, maintenant, comme si elle avait été vidée de ses enseignants, de toute façon, et que l'école privée, maintenant, récupère...
Le mouvement... Oui, non, mais c'est peut-être la partie la plus compliquée à suivre, parce qu'en fait, on a un système français qui est... historiquement très étrange. Enfin, déjà, les étrangers ne comprennent pas bien. Je sais pas, il suffit d'expliquer deux secondes. Attendez, on a des universités. Bon, déjà, elles sont en nombre assez important. On a des IUT, on a des BTS, on a des écoles privées, on a des écoles préparatoires, on a des grandes écoles, on a des grandes écoles publiques, des grandes écoles. Personne ne comprend rien. En revanche, ce qui est intéressant, moi, pour la question de la destruction de l'université, évidemment, elle ne vient pas du fait qu'il existe des grandes écoles. Elles sont là depuis Napoléon. En revanche, si on regarde bien, il y a au moins plusieurs mouvements à l'œuvre. Le premier, c'est que pour une bonne partie des grandes écoles publiques, le pourquoi elles existaient, à savoir, je ne sais pas, Polytechnique former des artilleurs, ça n'existe plus. Enfin, l'espace concurrentiel qu'on a prétendu créer pour les choses universitaires, n'est absolument pas un monde concurrentiel comme le rêvent les économistes de l'université ou les décisionnaires. C'est-à-dire que dès le départ, l'université, mais j'enfonce une porte ouverte, mais si on tire le fil, ça devient intéressant, dès le départ, l'université ne joue pas sur la même compétition. Par la force des choses, déjà, parce que elles attirent, même s'il faut le dire crûment, c'est-à-dire qu'on voit se développer des stratégies d'évitement de l'université qui sont extrêmement révélatrices, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant, là, aujourd'hui, jamais eu autant d'élèves qui vont dans les grandes écoles, enfin, qui vont dans les classes préparatoires, qui rêvent d'aller dans les grandes écoles, ne brûlons pas les étapes, mais qui vont dans les écoles préparatoires, ça a augmenté de 15% en 3 ans, ce qui est considérable. Et en revanche, dans le même temps, on voit très bien se vider les grandes écoles publiques, je parle, mais il faudrait le faire pour les écoles privées, les écoles de commerce, HEC et autres, et à mon avis, on ne serait pas très surprenant le résultat, se vider disons des classes populaires ou des classes dominées ou comme elles appellera. Ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que l'université, son point de départ, il est d'abord j'accueille tout le monde. Ce qui veut dire les bacs pro, parce que ça on l'oublie, mais les bacs pro, c'est-à-dire à 96% le bac hôtellerie qui n'aura pas sa première année, qui va accueille tout le monde en termes de mixité sociale. Ça aussi, c'est très intéressant parce que le nombre de fois on a vu Sciences Po capitaliser sur c'est méchant, mais capitaliser sur 13 gamins qu'on va tirer des banlieues, et voilà, on fait... Mais l'université fait ça tout le temps, c'est-à-dire de tirer les gamins des banlieues, de les amener, ou de faire de la mixité sociale, ou raciale, pour employer le... Mais voilà, ce qu'elle fait tout le temps. Donc la concurrence est biaisée dès le départ, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement de l'université est nécessairement celui du tout venant, celui du diplôme compliqué à avoir, notamment pour les bacs professionnels, et celui du diplôme qui, et là tous mes collègues ou anciens collègues vont crier, qui vaut rien par rapport à un diplôme de grande école ou même de classe prépa, à telle enseigne que, je reviens sur l'exemple de Sciences Po, mais parce qu'il me semblait extrêmement intéressant, il suffit de suivre un peu la carrière de ce que c'est que ce titre, diplômé de Sciences Po, ou même enseignant à Sciences Po. C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que, y compris dans le monde universitaire, c'est vrai dans le monde économique, bon, maintenant ils vont plus dans la haute finance, donc bon, une fac d'histoire lutte pas à armes égales, bon, peu importe, mais, et tant mieux, mais y compris dans le monde universitaire, un diplôme de Sciences Po vaut ce que ne vaut plus un diplôme universitaire. C'est-à-dire, la concurrence, elle se fait autour de ça. S'ajoute à ça une concurrence financière, qui est que on dépense plus pour un élève d'une classe prépa parce qu'il faut payer les enseignants qui sont payés plus cher, ou les locaux, ou les machins, qu'un enseignant dans l'université. Et je pense qu'on a ce jeu de... mais c'est pas la question de la concurrence des loyers, c'est-à-dire que l'université a pâti doublement du fait qu'elle n'est pas dans un monde qui a été rationalisé prétendument ou modernisé, c'est-à-dire que dès le départ la compétition se fait pas sur le même mode, d'ailleurs ce que disent très bien les patrons, mais on continue à recruter d'abord à niveau diplôme équivalent ou même à niveau diplôme on préférera un ingénieur ou un ancien élève d'HEC pour faire cadre de ma boîte qu'un docteur en je sais pas quoi, en économie ou autre. Ce qui explique d'ailleurs le taux, enfin, en partie le taux de chômage chez les docteurs de l'université, qui est assez hallucinant, spécialité française aussi. Mais sur la manière dont Sciences Po a capitalisé sur ce que devait être l'université de demain. C'est-à-dire que c'est moi, cet exemple-là, d'abord, qui était sur lequel Descoings s'étend assez longuement en s'en félicitant, mais le Nouvel Obs l'a fait aussi, Bruno Latour l'a fait aussi. Enfin, ils sont très joyeux, par exemple, et ça me semble extrêmement révélateur. D'avoir eu en 2010 Condoleezza Rice, qui était à l'époque secrétaire d'État du gouvernement, c'est le gouvernement quoi, Bush, de l'avoir eu pendant 45 minutes dans le grand amphi Boutmi de Sciences Po, avec les logos Sciences Po partout, retransmis en direct, non coupé, par CNN et tout ça. Et où la clé qu'il donne à la fin, c'est ça. Et comment on a fait pour la faire venir? Elle se croyait à la Sorbonne. Moi, je sais pas, j'adore ce que... Alors, je parle pas de la naïveté américaine ou quoi que ce soit. C'est juste le mode de fonctionnement, la structure inégalitaire de notre mode de fonctionnement universitaire ne pouvait, et a fait, ne pouvait que accentuer cette destruction-là. Et c'est très compliqué pour des universitaires aujourd'hui. Il y en a pas mal, c'est très compliqué de dire de qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc oui, c'est la partie gestion. J'ai oublié le troisième point, mais...
Il y avait un autre pour finir, et après on va...
Mais les précaires, c'est extrêmement... Non,
Non, c'est super. Ah bon. dans ce qui est de la production des savoirs et le mouvement que tu précises, qui montre quelque chose comme un fractionnement et que tout part en tout petits morceaux, ce serait ce qu'on appelle la recherche par projet. Ah. Alors pour ceux qui sont dans l'université, vous voyez très bien de quoi on parle, non?
C'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, mais oui.
Pour les autres, ça reste.
Oui, c'est qu'ils ont le privé depuis longtemps, complètement. Oui,
ça existe dans le privé, mais il semblerait donc que ce soit maintenant. Alors, est-ce que tu peux en.
Expliquer ce que c'est, expliquer.
En donner 2-3 lignes et de montrer surtout ce que tu montres, ce que ça génère.
Ce que ça produit. C'est compliqué parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, il y avait plein de choses.
J'ai un auteur de la fabrique, un autre.
Parce qu'on est une équipe.
Qui est un universitaire, historien lui aussi, à l'université de Dijon. Pour expliquer ce que c'est la recherche par projet. Et le président de l'université, lui c'est un 19e-iste. De formation, c'est un 19e-iste. Et le président de l'université lui a dit, ouais c'est bien vos trucs, mais... Ça serait bien que les projets... On est à Dijon, en Côte d'Or. Ça serait bien que les projets aient quelque chose à voir avec le goût. Parce qu'on est dans le vignoble, la moutarde, le cassis, etc. Pour avoir du blé, des gens qui ont de l'argent dans le coin,
qui vont financer.
Il vaut mieux leur parler... de l'histoire du Picrate que de l'histoire des barricades. C'est clair.
En plus, c'est un bon historien. Je pense que ça éclaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, ça vient de l'idée d'organiser par projet, ça vient du monde manager, enfin, ce qu'on a appelé le néo-management, qui existe depuis les années 90, même préalablement aux États-Unis, qui a été. Bon, l'idée. Pour aller très vite et pas pour l'appliquer au monde de l'université, c'est que plutôt que d'avoir des gens qui font des choses et qui font des choses parce qu'ils ont l'habitude de faire des choses ou parce qu'on leur a commandé, on met une espèce, je caricature vraiment, on met une sorte de carotte, c'est-à-dire l'idée que la personne doit avancer. On met un projet sur la table, c'est la carotte, et ça va créer une émulation, ça va créer une forme de dépassement de soi pour obtenir ou dépasser les objectifs, et puis ça permet une chose qui l'intériorisation des objectifs de l'entreprise, par exemple de l'entreprise collective. C'est-à-dire, l'objectif, il est commun, le projet, il est là, il faut tendre vers ça, et donc tout le monde se dépasse et fait des heures en plus, machin. Voilà, voilà. L'idée, elle n'est pas très originale, elle est très originale dans l'histoire du management. Elle n'est pas très originale au moment où l'université le met en place. Ce qui est vachement plus compliqué à l'université, c'est que se greffe là-dessus une forme de bureaucratie assez classique, qui est que d'abord, ce qui a centralisé, je parle en France, hein, ce qui a centralisé la recherche par projet a été une agence qui s'appelle l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, de la recherche. Qui devait être un GIP, qui l'a pas été, enfin bon, qui est une agence, 2005, et qui. Donc c'est une agence qui fonctionne sur le mode suivant. Ben, je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui met en place un comité qui décide de projets prioritaires dans l'organisation de notre société, c'est-à-dire pour caricaturer, par exemple, le goût, là en l'occurrence, bon, mais parce qu'il y en a eu plein d'autres qui fonctionnent comme ça ensuite. Mais par exemple, je sais pas, moi, des priorités qui sont soit celles de l'écologie, bah, le solaire, le photovoltaïque, machin, soit des priorités qui relèvent du monde sécuritaire, les neurosciences. En fait, c'est assez simple. Il y a la sécurité, la santé publique, l'énergie du futur et j'en ai oublié un, l'économie, bah si, les développements. C'est-à-dire, en gros, l'idée qu'on va faire des débouchés économiques à partir des recherches publiques. Économique privée à partir de la recherche publique. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça se met dans un monde où, si on réfléchit un peu, ça aussi c'est une spécificité française, mais en théorie, tout universitaire, je les ai appelés comme ça, mais dans le bouquin je l'explique, c'est un universitaire est à la fois un enseignant et à la fois un chercheur. Donc, certains sont que chercheurs, mais bon, par commodité, il faut les distinguer sur plein de points, mais enfin, bon, par commodité, on les met là-dedans. Donc la recherche fait partie d'un mode de fonctionnement dont on isole un morceau en disant, bon, cette activité-là, enfin, c'est même pas cette activité, cette partie de votre cerveau ou de votre mobilisation dans le temps, je sais pas, il suffit d'avoir cherché à enseigner un truc sur lequel on recherche pour voir que c'est tellement imbriqué ou comment je dirais ça à mes étudiants, et voilà, bon. Donc on isole cette partie-là et on se dit, on va l'inféoder, ce que je disais tout à l'heure, on va l'inféoder à quelque chose qui n'est pas universitaire, qui est des priorités décidées. Mais ce qui, moi, me semble important, c'est ce que ça fait, mais un peu comme pour les précaires, j'aurais pas le temps, donc je les mets un peu dans le sens, qu'est-ce que ça fait à ce que c'est que d'être universitaire, mais qu'est-ce que ça fait au monde de l'université, et ensuite, qu'est-ce que ça fait à nous tous qui avons dans notre société un truc qui s'appelle l'université. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça fait tout ça ? Et pour ce qui est de la recherche, à minima, on peut au moins se demander, un peu comme pour tout à l'heure les enseignants, mais ça veut dire quoi d'avoir un prof qui est auto-entrepreneur, par exemple, qui a sa propre entreprise, l'université, à Tours. Mais c'est hallucinant, enfin, bon, je dénonce. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un auto-entrepreneur qui fait les cours et qui vont être diplômés par une université publique. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, dans la recherche, la question, elle est différente, mais elle aboutit à la même chose, une forme d'inféodation à autre chose, qui est, qu'est-ce que ça fait à des chercheurs d'abdiquer, je vois pas d'autre mot, même si c'est fort, d'abdiquer la libre décision de ses propres sujets de recherche, au profit de quelque chose qui est décidé hors de, non pas seulement de la discipline, mais de la communauté, déjà de la discipline c'est pas mal, mais de la communauté universitaire de départ. C'est-à-dire par exemple, qu'est-ce qui décide de la priorité, de la hiérarchie et de l'importance d'un sujet de recherche en histoire, par exemple. On peut arriver à le déterminer sociologiquement, il y a des états de la recherche, il y a des dépassements, il y a des nouvelles générations, La sociologie de la science fait ça très bien. Là, ce qu'on dit, c'est... Oh, mais ça, on s'en fout, c'est pas ça le problème. En revanche, il y a des sujets prioritaires qui sont mis, et c'est là-dessus qu'il faut aller. Encore une fois, parce qu'il y a la carrière, encore une fois, parce qu'il y a les financements, tout est organisé autour de ça. Mais ce qu'on perd est assez exorbitant, à mon sens. C'est-à-dire ça, qu'est-ce que c'est que faire science, à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une science qui n'est plus là pour faire science, mais qui est là pour faire autre chose que de la science? Voilà. Et de la même manière, enfin, je sais pas si ça répond à la question, mais... pour moi, et je l'aurais glissé comme ça fourbement, la question des précaires pose des problèmes qui vont avec. C'est-à-dire que ce à quoi je tenais le plus dans le bouquin, et c'est pour ça que ça s'appelle la destruction de l'université française, et pas la destruction de l'enseignement ou la destruction de la recherche, c'est pas ça, c'est... Tous ces fils-là, on peut les tenir ensemble autour d'une forme de dépossession complète de ce que c'est que l'université, ça j'en ai parlé beaucoup, mais en même temps de fragmentation complète du métier parce que les précaires n'en font plus partie. Et parce qu'on a beau dire, on a beau faire, passer 10 ans à être précaire, ça ne fait pas un statutaire. Ça ne fait pas un statutaire du précaire, mais ça ne fait pas non plus un statutaire dans le salaire. Ça fait pas... Mais c'est pour tirer sur les effets de la même manière que la recherche. Les effets, je pense qu'en plus c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire à étudier. Là, c'est pas la casquette de l'historien, du sociologue ou de l'anthropologue. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça produit dans notre université? Qu'est-ce que ça produit à l'extérieur? Qu'est-ce que ça fait des savoirs qu'on produit dans l'université quand ils vont circuler ensuite ailleurs? D'abord, un précaire, il n'a pas accès au... Il a difficilement accès au monde de l'édition, il a difficilement accès aux médias, il a difficilement accès... Mais ça, passons. En revanche, qu'on réfléchisse deux secondes à ce que ça veut dire que de produire un cours magistral ou de produire une recherche en étant précaire. Ça veut dire, par exemple, un peu de pub, voilà, je le détaille beaucoup dans le bouquin, donc je passe très vite, il y a beaucoup de descriptions et de témoignages. L'idée, c'est aussi, je suis précaire, mais en attendant, il faut bien que je bouffe, donc j'accepte un contrat, par exemple, type ANR dont je viens de vous parler, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et le nombre de précaires qui disent, voilà, d'abord, petit 1, j'ai pas le choix. Petit 2, ça peut être à l'opposé de mes recherches, eh ben, je mets un mouchoir dessus et je me tais. Quel parcours universitaire, quel parcours de recherche et quel parcours universitaire ça construit, évidemment, je réponds dans le bouquin, mais je vous mets sur le point d'interrogation. Et troisièmement, parce que moi, ça, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit dans la communauté scientifique? Il n'y a pas besoin d'avoir Internet depuis longtemps pour aller regarder, peu de temps après les moments, c'est un peu comme la mode printemps-été, hein. Là, il y a le moment des recrutements, même si ça s'est imité, et le moment des recrutements, allez voir le nombre de discours, c'est pas de la désillusion, de haine, de rancœur, de tout ce que vous voulez, des précaires à l'égard de tous les collègues qui sont dedans. Si on le prend pour autre chose que simplement un discours folklorique ou autre chose que, ah bah oui, ils sont pas contents, c'est normal, et machin, il s'agit pas de ça. Mais qu'est-ce que ça produit dans l'université que d'avoir dit à un moment donné, là où il y avait des règles, là où il y avait des formes, c'est Mauss qui dit ça, on est en société pour s'attendre collectivement à ce que des choses arrivent. C'est-à-dire, on est là pour s'attendre à. C'est-à-dire, c'est ça, être dans un monde universitaire, c'est s'attendre à. Je m'attends à ce qu'après tel poste, après telle thèse, tel truc, que ça se passe comme ça. Le modèle était vrai pour les assistants, même si ça a coincé dans le moment de la crise de croissance. Bon, il était vrai depuis un bon siècle. Là, ça ne marche pas. C'est-à-dire, je m'attends à, ça ne marche pas. Ça veut dire que pour les recrutements des précaires, pour l'ANR, mais aussi pour les vacataires dans les salles de classe ou les amphis, c'est-à-dire qu'on adopte des choses parallèles qui ne sont plus des règles de fonctionnement universitaire, mais qui sont des formes d'arbitraire, qui peuvent être, bah oui, c'est mon directeur de thèse qui monte le projet ANR, je vais être dans les petits papiers, je vous laisse ensuite deviner ce que ça veut dire que cette inféodation et cette forme de conservatisme que ça construit, mais ça veut dire aussi que ça produit l'idée qu'à un moment donné, les règles, dans le mode de fonctionnement universitaire, ne sont pas premières. C'est-à-dire l'absence de règles est plus première que aller expliquer à un précaire depuis 10 ans qui a fait plein d'ANR et machin que là, il y a un petit jeune qui a fait sa thèse et qui sort juste, qui n'a pas fait d'article, qui n'a pas fait de machin, mais il répond bien à l'exigence de précocité de la carrière, ou de... Non, pas précocité de la carrière, mais précocité de voilà, il a 25 ans, il sort... c'est incompréhensible. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas de le rendre juste ou pas juste, ce n'est pas de la philosophie morale que je fais. Si c'est incompréhensible, c'est un gros problème pour l'ensemble du monde universitaire. Et pour moi, une des destructions, c'est ça, cette incompréhension-là.